9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Prenez votre temps aujourd'hui, vous êtes nombreux en voiture, comme ça vous avez le temps d'écouter toute l'émission. Mon invité, et je le reçois ce matin, c'est La Force Tranquille. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Samir Ben Saïd, alias Schtroumpf Dormeur. Entraîneur de JJB. JJB, qu'est-ce que c'est que le JJB?
JJB, c'est du Jiu-Jitsu brésilien.
D'accord. Voilà, et c'est quoi la différence entre le Jiu-Jitsu brésilien et le classique?
Donc, ils ont tous les deux la même source, même racine, Jiu-Jitsu japonais. Et sauf que Jiu-Jitsu brésilien va se spécialiser dans toutes les phases de combat au sol, essentiellement. Donc, voilà.
Bien. Vous publiez votre premier livre, La Force Tranquille, donc... Jiu-Jitsu, j'ai arrivé à le prononcer avant la fin de l'émission, vous allez voir.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est votre histoire. Alors, comment vous définissez votre livre? À quel genre appartient-il?
Alors, le sous-titre du livre, c'est Jiu-Jitsu, la force tranquille, le livre qui vous aide à devenir meilleur. Donc, il a la prétention, on va dire, et l'ambition en même temps d'aider le pratiquant de Jiu-Jitsu dans sa pratique à progresser rapidement. Et il y a une seconde lecture qu'on peut lire où va aider la personne, l'humain, à s'améliorer grâce à l'expérience du combattant que j'ai vécu. Quoi.
C'est à la fois pour les sportifs et c'est aussi un livre de développement personnel.
Voilà, exactement, puisque on connaît tous les valeurs martiales, les codes d'honneur, on va dire, des anciens samouraïs. Mais bon, donc du coup, il y a la réalité, enfin il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et donc dans la pratique martiale quotidienne, faire face à la défaite, etc. Donc c'est vraiment un défi du quotidien. Donc,
Alors vous êtes compétiteur, donc vous avez eu de nombreux titres, 5 fois champion de France, entraîneur de l'équipe de France. Aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube où vous justement démocratisez votre sport, votre passion. Auprès du grand public, vous expliquez. Vous avez un objectif d'ailleurs, c'est 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc c'est le moment qu'il faut y aller.
C'est le moment.
C'est le paquet qu'il faut mettre là.
Donc, j'ai jamais couru vraiment après les abonnés, ma chaîne ça fait 10 ans qu'elle existe. Au début c'est vraiment une petite chaîne pour moi, mes élèves, et filmer les techniques que je faisais en cours pour qu'ils puissent réviser. J'ai une façon dans ma pédagogie assez de vulgariser la discipline. C'est-à-dire, même si on connaît pas la discipline, on écoute, on va comprendre ce qui se passe. Et du coup, j'ai attiré un public, pas forcément de pratiquants, mais qui aime les arts martiaux et puis qui s'est pris au jeu. Donc du coup, la chaîne a bien grossi. Et puis, du coup, ces personnes-là qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de leur renvoyer des mails, enfin de garder un contact avec eux. Et certains m'ont dit, on kiffe vraiment tes mails, on kiffe ce que tu nous envoies. Pourquoi pas en faire un livre, quoi. La graine a été semée. Et puis, de fil en aiguille, cet été, je me suis dit, vas-y, let's go. J'écris tous les matins pendant 2 mois et à la fin, j'ai un livre. Donc, voilà.
Et c'est très réussi. C'est facile à lire, c'est vraiment inspirant, comme on dit aujourd'hui. Il y a beaucoup de punchlines. On ne va pas toutes les donner. Je pourrais en donner peut-être une ou deux. Ouais. Vous racontez votre histoire. Vous avez commencé par ne pas aimer votre enfance au moment où vous l'avez vécue, et finalement aujourd'hui vous comprenez pourquoi cette enfance c'est ce qui vous a structuré.
Oui, parce que mes parents étaient des commerçants, ont travaillé sur le marché, donc le travail sur le marché à l'époque c'était vraiment, enfin même maintenant, je l'ai vécu d'une façon assez dure puisque on n'avait pas de vacances scolaires, enfin les jours fériés, enfin mercredi, samedi, dimanche, je travaillais sur les marchés. Donc quand le lundi matin j'allais à l'école, j'entendais mes camarades parler des dessins animés ou de ce genre de choses, et choses que, enfin moi je travaillais à ce moment-là. Donc c'était en plus une éducation un petit peu à la dure. Donc tu te plains pas, tu fais, t'exécutes. Donc j'avais un esprit un peu rebelle qui avait du mal avec ça. Après j'ai observé beaucoup mon père travailler, comment il était, parce que du coup vu que j'étais bloqué ici, j'avais pas le choix. Donc je me suis dit je vais essayer de capitaliser, voir comment je peux tirer profit de tout ça. Et j'ai mis un des premiers textes que j'ai mis dans ce livre. Alors c'est une leçon que j'ai tirée et puis j'ai trouvé bon de remettre et publier aujourd'hui, puisque dans les temps qui courent, enfin en ce moment le climat national il est un petit peu tendu. Donc le premier texte que j'ai écrit c'était Le Juif, l'Arabe et le Gitan, où j'explique que j'ai grandi dans cette atmosphère où les meilleurs amis de mon père étaient un Juif, un Arabe et un Gitan, et puis ça se passait très bien. Il n'y avait pas de problème interconfessionnel, c'était l'humain qui primait avant tout. Et je pense que ça m'a servi plus tard, et j'ai retrouvé ça dans les arts martiaux.
Voilà, le Juif Pierrot, l'Arabe c'est Mousse, et Christian, c'est le gitan, ce sont les amis de votre père. Qu'est-ce que vous faisiez sur les marchés?
Alors, à l'époque, on vendait des vêtements.
Ouais.
Donc, on vendait des vêtements. Donc, on allait sur les marchés le matin. On arrivait à 5h, 6h du matin. On déballait les vêtements. Et puis après, une fois que l'étalage est fait, j'écoutais mon père et ses amis parler. Et puis voilà, ils se marraient, ils se fendaient la poire. Et c'était des potes qui riaient entre eux. Et ça m'a impacté. Et du coup, moi, j'ai grandi comme ça, et pas de différence de culture, de religion ou quoi. Et c'est pour ça qu'après, je trouve un peu triste que les gens focalisent là-dessus. Et ce que j'ai kiffé, pour reprendre l'expression, et aimé dans les arts martiaux, il y avait un grand sensei qui disait ça, il dit, en jujitsu, tout le monde est pareil, en fait. Une fois que tout le monde a son kimono, tout le monde est pareil. Ce qui fait la différence, c'est le cœur. Sur un tatami de jujitsu, tu peux avoir le riche, le pauvre, le chômeur, le juif, l'arabe, le chrétien, n'importe quoi. On fait pas de différence. Voilà, on va juste, c'est le cœur qui va parler sur le tatami.
Mais c'est vrai dans tous les sports.
Enfin, c'est vrai.
Finalement, c'est l'uniforme. Enfin, quand on a un uniforme ou un équipement, son maillot, son short, on est tous pareils.
Ouais, exactement. Ensuite, chaque art martial, chaque discipline a ses valeurs, a ses spécificités. Moi, il y a des spécificités particulières à cette discipline qui m'attire. Pour quelqu'un qui fait des arts martiaux, je ne suis pas quelqu'un de violent. Et donc, c'est une discipline dans laquelle il n'y a pas de coups qui sont portés. En fait, il n'y a pas de percussion, on ne frappe pas. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans la discipline. Elio Gressi, le fondateur de la discipline, il disait « Ce que les samouraïs font avec leurs sabres, nous le faisons avec nos mains. » Donc, c'est un peu... Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fin de compte, effectivement, avec tes mains, tu apprends à combattre.
Qu'il avait un frère.
Exactement. Alors, il y a les deux fondateurs, c'est Elio Gressi et Carlos Gressi. Donc, eux, ils ont appris le jujitsu directement de l'élève de Jigoro Kano. Jigoro Kano, le fondateur du judo, que tout le monde connaît. Donc, un de ses élèves, Maeda, qui est parti vivre dans une colonie brésilienne, a été recruté par un des Gressi. Voilà, il voulait apprendre le jujitsu à ses deux enfants. Ils ont appris le jujitsu du coup japonais en fait, qu'on connaît tous. Et il se trouve que Elio Gressi était vraiment très petit de taille, très fétiche, et il y avait des choses qu'il pouvait pas faire. Ça nécessitait beaucoup de force. Du coup, il a supprimé toutes les choses, on va dire, qui nécessitaient beaucoup de force et de puissance, et les a adaptées pour un petit gabarit, en se posant la question, est-ce qu'un enfant peut faire ça, ou est-ce qu'une femme de 50 kilos qui se fait agresser par un homme peut faire ça? Et si c'était pas possible, il enlevait la technique. Et donc, c'est comme ça que le jiu-jitsu brésilien a été construit. C'est vraiment pour donner littéralement sa chance aux plus faibles, on va dire.
Alors, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez d'abord voulu être basketteur.
Oui.
Bon, là, limite en taille, quand même, un petit peu. Hein.
Oui, c'était des rêves d'enfant. Vous savez, j'ai grandi avec la génération Michael Jordan, Magic Johnson. En 92, il y a eu la Dream Team, la grande Dream Team. Voilà, avant ça, je faisais du basket. Et puis, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, je me dis, bon, c'est quoi mais, oh, c'est, tu fais du basket, c'est la NBA. Je rêve sans mesure. Et puis, bien sûr, la réalité vous rattrape. Quand vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le niveau. Mais voilà, j'ai vécu tous mes rêves à fond. J'ai joué en équipe régionale à Montreux, en Seine-et-Marne. Il y a de ça quelques années. Et voilà, c'est une belle expérience.
Après, vous avez voulu être footballeur, vous avez voulu devenir Bernard Tapie, Bruce Lee, Rocky Balboa, ça fait du monde, hein. Bernard Hinault, Michael Jackson.
Oui. Ça, c'est tout. En fait, si vous voulez, c'est un peu des alors, j'aime pas employer le terme. Avant, je disais idole, mais plus mentor, parce que je retrouvais en chacune de ces personnes des traits de personnalité qui est dans lequel je me voyais. Je me disais, il y a quelque chose de fort là-dedans. Michael Jackson, pendant longtemps, j'étais fan, mais quand je m'intéressais au personnage, je voyais que c'était un perfectionniste, un acharné du travail. Ça me parle. Et pareil pour Bernard Tapie, quand on sait que dans tout ce qu'il a fait, il a plus ou moins réussi. Après, on peut contester le personnage ou pas, mais moi, je regarde de l'extérieur. Le gars, il prend une équipe de cyclistes, il gagne le Tour de France. Il prend une équipe de foot, il gagne la Ligue des Champions. Il se met en politique, il est ministre ou un truc comme ça. Et je me dis, mais ces mecs, il y a des choses à apprendre de ça. Et du coup, moi, j'essaie de retransmettre ça, de prendre d'appliquer les leçons de ses mentors, en fait, et les appliquer dans ma vie, dans mon jiu-jitsu, dans, voilà. Moi, je me rappelle avoir lu des interviews de Michael Jackson où il était très pointu sur certains détails. Et moi, dans mon jiu-jitsu, je me retrouve, je me dis, ah ouais, mais là, les mecs, ils sont à un tel niveau de perfection.
Mais comme quoi, par exemple?
Bah, c'est, par exemple, sur des chorégraphies où tout le monde voyait que c'était parfait. Et lui, voilà, son pas de danse, il n'était pas à 45 degrés au lieu de 47. Et bah non, il recommençait parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Et au rendu, il y avait un rendu final que lui pouvait pressentir avant. Il se dit, ouais, mais si c'est pas comme ça, les gens le voient pas maintenant, mais le public va pas le ressentir comme moi je le ressens. Donc il faut que ce soit comme ça. Et donc, voilà, c'est du détail que seul l'expert dans sa discipline va s'acharner à faire, que les autres ne vont pas voir. Mais voilà, c'est ce qui fait la différence entre les champions, les grands et le reste.
Mais ça, vous l'aviez compris tout de suite.
Bah, ça m'a toujours fasciné, en fait. Ça m'a toujours fasciné, ces gens qui partent de nulle part, parce qu'on, voilà, je pense qu'on part, on démarre tous avec deux bras, deux jambes, une tête, et il y en a qui arrivent moins bien et d'autres qui excellent. Et moi, ceux qui ont excellé, je me dis, mais techniquement, j'ai rien à leur envier, quoi. Je suis bâti comme eux, j'ai une tête, deux bras, deux jambes. Comment ça se fait que un tel, il arrive à passer un palier voilà.
À la réponse dans votre livre, c'est les 10 000 heures.
La règle des 10 000 heures.
Il y a une loi qui dit ça, hein. C'est que finalement, pour arriver au niveau, il faut au moins pratiquer la discipline 10 000 heures.
Voilà, donc du coup, ça c'est voilà, un exemple concret de choses qu'on peut appliquer au jiu-jitsu brésilien et dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'avais beaucoup de combattants qui disaient, voilà, ça fait 5 ans que je m'entraîne, ça fait 10 ans que je m'entraîne, mais ils s'entraînent 2 fois par semaine. Donc si tu t'entraînes 2 fois par semaine sur 10 ans, c'est pas pareil que si tu t'entraînes 5 fois par semaine. Par exemple, un de mes premiers déclics en jiu-jitsu, à l'époque, c'était pas très répandu, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de s'entraîner. Donc j'avais que deux entraînements par semaine possibles. Voilà, dans où j'habitais, je pouvais m'entraîner que 2 fois. Au bout d'un an, je me suis dit, mais si je triple mes cadences d'entraînement, c'est-à-dire si je m'entraîne 6 fois par semaine, bah à la fin, j'ai gagné 3 ans sur une année par rapport à mes prévisions. Oui, sur les prévisions et par rapport à mes collègues, par rapport à mes concurrents potentiels. Si eux continuent à s'entraîner 2 fois par semaine et moi que je le fais 6, à la fin, je gagne 3 ans sur une année. Donc ça a commencé comme ça.
Et est-ce que c'est vrai, ça, finalement?
Bah oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est celui qui s'entraîne le plus qui est le meilleur, à la fin?
Alors, il y a une notion, en fait, il y a la notion d'efficacité dans l'entraînement. Hein. Ça, c'est pareil pour toutes les disciplines. On peut s'entraîner beaucoup, passer beaucoup d'heures et
pas être efficace.
Et pas être efficace. C'est Bruce Lee qui disait, je préfère, l'expression, je préfère répéter un coup 1000 fois que 1000 coups différents, que 1000 coups différents une fois. C'est-à-dire, en fait, il va répéter plus une seule technique. Donc, c'est l'efficience dans l'entraînement. Ensuite, voilà, il y a des méthodes, des techniques pour capitaliser et rendre efficient ces séances. Donc voilà. Mais c'est sûr que on peut passer 4 heures par jour sur le tatami ou 4 heures par jour dans sa discipline. Mais si c'est pas structuré, à la fin d'année, on gagnera rien. Au bout d'un moment, on va patauger dans la semoule. Donc voilà, faut avoir des plans, faut réfléchir à l'efficience. C'est mon leitmotiv, c'est-à-dire comment je vais capitaliser mon temps parce que.
Mais déjà en compétition, vous aviez compris ça? Ou c'est venu avec le temps?
Il y a une punchline que je cite dans mon livre. C'est « Arrête de vouloir rattraper le temps perdu, prends de l'avance. » D'accord?
Parce que vous avez commencé tard.
J'ai commencé tard. J'ai commencé ma première compétition, je l'ai faite à 29 ans. D'accord? Et donc, quand je commence ma première compète à 29, je me dis « Il faut que je rattrape le temps perdu. » Mais 29 ans, j'ai 29 ans, je ne vais pas avoir 20 ans du jour au lendemain. Donc je me suis dit, ok, mon statut actuellement, il est là, je peux pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je vais gagner de l'avance sur le temps présent. Les gens qui sont là, je vais m'entraîner plus qu'eux. D'accord? Je vais voir ce que les meilleurs font et je vais dupliquer. Et du coup, en 2008, j'ai fait ma première compétition en ceinture blanche. Et en 2013, je passe ceinture noire. Il faut savoir que passer ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, c'est très long. C'est pas comme en judo ou en karaté où en 4 ans, 5 ans, on peut l'obtenir. À l'époque, c'était 10 ans, 15 ans pour obtenir sa ceinture noire. Et moi, de 2008 à 2013, je passe ceinture noire. Et dans toute, c'est pas de la prétention quand je dis ça, c'est vraiment pour donner de la force aux gens. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai eu une ceinture, eh ben, j'ai gagné dans cette ceinture-là et j'ai redoublé d'efforts. En fait, j'ai, comment dire, efficientalisé mon entraînement. C'est-à-dire, ce qui était efficient l'année d'avant, j'essayais de le rendre encore plus efficient l'année d'après. Pour toujours, pas rattraper le temps perdu, mais prendre de l'avance sur tout le monde. Et puis au bout d'un moment, bah, y a, comme on dit dans le livre, il y a un effet cumulé qui se fait au fil des années. Puis à un moment, tu prends une avance et puis les mecs, ils ne comprennent pas.
La force tranquille, alors ça s'entend quand vous parlez. Vous êtes la force tranquille, juge d'issue, le livre qui vous aide à devenir meilleur. Et vous êtes notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Samir Ben Saïd est notre invité, champion de jiu-jitsu brésilien du JJB, 5 fois champion de France, entraîneur de l'équipe de France, compétiteur. Vous racontez votre vie dans un livre qui s'appelle La Force Tranquille, jiu-jitsu, le livre qui vous aide à devenir meilleur. Quelles sont les questions que vous êtes posées avant d'écrire un livre ?
Une des questions que je me suis posée, c'est la question de la légitimité. J'ai fait un complexe parce que j'ai pas été très bon à l'école. Pour ainsi dire, vraiment mauvais. Et moi, écrire un livre, c'était pas... donc je me suis dit, est-ce que j'aurais la capacité de le faire ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'écrivais parfois des mails aux gens qui me suivent sur les réseaux, et j'utilisais un ton où je leur parlais comme à des amis, parce que, c'est des gens, on se connaît plus ou moins, on a les mêmes affinités pour le sport. Donc, je parle leur langage. Et puis, les gens me disaient que, franchement, j'aime bien ce texte, j'ai vraiment kiffé et tout. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai fait. Je me suis dit, si je me dis je le fais plus tard, je le ferai jamais. À un moment, là, l'été, j'ai eu un petit peu la flamme. Je me suis dit, vas-y, stop. Tous les matins, tant que j'ai pas écrit mes 1000 mots, c'était ce que je m'étais fixé comme objectif, je sors pas du bureau. Donc, dès que j'avais fini mes 1000 mots, je me suis dit, ok, c'est bon. Donc,
À quelle heure c'était
Moi, je faisais doucement le matin et pas trop vite.
D'accord.
Mais en général.
Pas Miracle Morning.
J'ai fait un peu Miracle Morning. Ça marche bien, mais moi, j'aime bien aussi prendre mon temps. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que le soir, avant de m'endormir, j'essayais de penser au thème du lendemain. Donc, en fait, je laissais un peu gomberger mon subconscient la nuit. Le matin. Je mettais quelques vidéos de jujitsu, je regardais 2-3 trucs, je flânais un peu comme ça. Et puis quand je sentais que c'était bon, en général vers 10h, 11h, c'est plus en fin de matinée. Et là j'écrivais mes 1000 mots. Des fois ça mettait 1 heure, des fois 30 minutes, des fois 2 heures, des fois 3 heures. Mais tant que je les avais pas, je n'arrêtais pas. Et puis à un moment, je me suis dit, je crois qu'on tient quelque chose, quoi. Donc j'ai fait relire, j'ai retiré des choses. Et puis Donc, une des choses qui me rend content sur ce livre, c'est que j'ai fait appel à une correctrice littéraire que je salue, qui s'appelle Nadine Masson. Et donc, elle a 65 ans, elle connaît absolument rien au JJB. Mais vraiment, vous imaginez. On me l'a présenté, elle était disponible pour corriger mon livre. Au fur et à mesure de la correction, elle m'envoyait des feedbacks. Mais c'est puissant, mais c'est bien, j'aime beaucoup ce sport. Et puis là, moi, mon neveu, l'autre jour, il m'a dit ça. Je lui ai dit, non, ton mindset, c'est pas comme ça qu'il doit être et tout. Donc je me disais, ouais, elle a accroché. Et du coup, je me dis, ouais, c'est cool. C'est cool parce que je voulais pas m'adresser que aux gars qui pratiquent ma discipline. Je voulais que ça leur serve à eux en priorité. Mais je voulais aller au-delà. Parce que je pense que les leçons qu'on apprend à travers les arts martiaux, elles vont servir littéralement aux personnes dans la vie de tous les jours. Et ça, j'en ai vraiment la conviction. Puisque donc ça, c'est particulier, pas particulier à ma discipline, mais particulier, je pense, à toutes les disciplines, en particulier martiales. Surtout lorsqu'on fait de la compétition, par exemple, on s'expose à une chose qui fait peur. C'est la défaite, en fait. On a peur de perdre. Et du coup, le processus, grâce aux arts martiaux, au jiu-jitsu en particulier, quand tu vas t'entraîner, quand tu vas à la compétition, tu te mets face à la défaite. Il y a beaucoup de gens dans la vie, ils n'osent pas tenter des choses, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans leurs relations humaines, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de perdre. Et au début, la défaite me faisait peur, donc j'avais peur d'aller combattre. Et puis, à un moment, j'ai compris que plus je combattais, plus je perdais. Il faut mettre une partie de son ego de côté, puisqu'on a beaucoup, on a quand même de l'ego, on veut pas perdre. Mais j'apprenais, à chaque fois je revenais meilleur. Mais il ne suffit pas de dire ouais, j'y vais pour participer. Et si je perds, c'est pas grave. Non, moi, quand je perdais, je disais qu'à ma défaite, je savais pourquoi j'avais perdu et je ne refaisais plus les mêmes erreurs. C'est en ça que la défaite est une leçon pour moi.
Donc, le secret, c'est d'apprendre à perdre.
Ouais, et c'est pas facile.
Et c'est la base.
Oui, c'est. Alors, en théorie, c'est. Voilà, il faut accepter la défaite et tout. Mais quand on a. Quand on a l'ego, on veut gagner. Quand on combat, on se met sur la ligne de départ, c'est pour gagner. Mais plutôt, on aura intégré que la défaite va nous aider. Bah, plus on va combattre relâché et plus. On peut atteindre nos objectifs.
Soit on gagne, soit on apprend.
Exactement.
En gros, c'est ça.
C'est ça.
Vous n'avez jamais été un mauvais perdant, en fait.
Oh, si. Si, j'ai été un mauvais perdant, puisque au début, on apprend à perdre, en fait. Ça s'apprend de perdre. Moi, la particularité, la beauté du jiu-jitsu brésilien, c'est que, quel que soit l'âge auquel vous commencez, vous n'allez pas tout de suite combattre avec les professionnels, on va dire. Vous combattez dans votre catégorie de ceinture, donc ça vous laisse le temps de vous faire la main, d'accord ? Donc si vous débutez, vous êtes ceinture blanche, vous allez combattre qu'avec des ceintures blanches. Donc moi, de la ceinture blanche à la ceinture violette, en 3 ans, j'ai pas beaucoup perdu. J'ai eu ce rythme où j'ai pas beaucoup perdu. Et je me rappelle qu'une de mes premières défaites, pardon, j'étais vraiment pas prêt, j'étais dévasté, je crois que c'était la fin du monde. Je me suis dit, oh, je suis nul. Enfin, et tellement je voulais plus retourner combattre parce que je voulais plus ressentir ce sentiment. J'avais pas compris qu'il y avait un cadeau, un trésor derrière ça. Donc je me suis mis out pendant quasiment 1 an. Je travaillais sur moi sans m'en rendre compte vraiment. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais non, je peux pas rester comme ça. Et puis de fil en aiguille, après, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, la défaite là, quand même, si j'avais pas perdu là, j'aurais pas gagné là, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas rencontré telle personne, etc., etc. Et donc voilà.
Vous expliquez que votre plus grand bien, c'est votre cerveau.
Oui.
Alors, comment est-ce que vous protégez votre cerveau ?
Bah, mon cerveau, je le protège. Franchement, c'est. Je fais attention à ce que j'écoute, à ce que je vois. En fait, nos sens sont des portes d'accès vers notre cerveau. Du coup, je passe beaucoup de temps dans les transports pour aller m'entraîner. Dans mes oreilles, je vais mettre des choses qui vont stimuler mon cerveau, des choses positives, des podcasts. Sans vouloir faire de la pub, j'écoute aussi pas mal de vos invités qui passent parfois parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Du coup, j'essaie d'écouter du contenu.
Faites-moi de la pub, allez-y.
Bon, non, j'essaie vraiment d'écouter du contenu qui va m'apporter. J'essaie de fréquenter des gens. Qui vont être positifs ou entreprenants. Il y a un dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, voilà. Et lorsque quelqu'un m'envoie de l'énergie négative ou une opinion négative, je lui dis, ok, bon, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est ta croyance, quoi. C'est, voilà, ne la rentre pas dans mon cerveau. C'est à toi, garde-le, je respecte. Mais voilà. Donc et parfois je peux être très. Alors je m'en rends pas compte, c'est après coup. Quand je sens que la personne devient incontrôlable négativement, je me ferme et des fois je pars sans m'en rendre compte, quoi. Je deviens amnésique.
Prenez la fuite, en fait.
Ouais. C'est voilà. Quand toutes les autres solutions ont échoué, voilà.
Expliquez-nous comment. Olive et Tom, DBZ et les Chevaliers du Zodiac vous ont aidé à vous forger un mindset de champion.
Ça
paraît fou, hein ?
En écrivant, en faisant le feedback, parce que je me suis dit, parce qu'il y a les gens qui me suivent sur les réseaux. Après, j'ai eu les feedbacks de mon petit frère, ma sœur. Les gens me connaissent. Pour avoir un mental fort, c'est ce que de l'extérieur les gens me renvoient.
Mais ça vous dites que en fait vous avez toujours eu un gros mental.
Oui, je pense. Ensuite, je l'ai cultivé et c'est bête, mais quand je regardais des mangas, je m'en rendais pas compte. Mais par exemple, Olive et Tom, je vois que c'est peut-être la culture martiale japonaise qui retranscrivait dans ces mangas-là. Mais quand il perd 3-0 et qu'il dit non, les gars. On se bat jusqu'au bout, on va y arriver et on va gagner. À la fin, il marque 4 buts et il gagne. je me dis ouais, c'est ça quoi. Et ça c'est la fiction, mais des fois la réalité dépasse la fiction. Par exemple, il y a quelqu'un dont un athlète dont j'ai pas parlé dans le bouquin, mais qui moi m'impressionnait, c'est Michael Phelps, vous savez, le nageur américain. Une année, il dit qu'il va prendre 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Enfin, déjà, les gens rêvent de participer, juste de participer aux Jeux Olympiques. Lui, il dit qu'il va en prendre 8 sur une même Olympiade. Il fait cette Olympiade-là, il gagne 7 médailles d'or, et la course qui devait lui ramener à la 8e, il ne performe pas comme il devait, donc il lui reste une dernière course dans laquelle ce n'est pas le favori. Donc, sur la dernière course, il est mené toute la course, et on le voit qu'il grappille petit. Sur chaque foulée, il rattrape. Sur chaque foulée, il rattrape. Sur chaque foulée, il rattrape. Et le truc de fou, c'est que c'est sur la dernière foulée, sur le dernier toucher, qu'il gagne sa 8e médaille d'or. Mais ça, en fiction, c'est impossible. Tu te dis, mais c'est pas vrai.
Mais qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là ?
Ce que je me suis dit, c'est que, en fait, il faut se conditionner, il faut y croire. C'est-à-dire, en amont, il faut pas juste se fixer l'objectif, faut vivre son objectif, faut être son objectif, faut le ressentir du plus profond de son être. En fait, toutes les cellules de son être à ce moment-là savaient qu'il avait la capacité de le faire. Et lorsque il était dans la difficulté, ces cellules, elles ont dit: "Hey mec, on a dit qu'on va y aller, on y va. T'es fatigué, on s'en fout, on y va." Et ça, je me dis, ça c'est phénoménal, et c'est une arme formidable que le cerveau humain, enfin que l'être humain a avec son cerveau, c'est que on peut se conditionner. Et moi, dans mon sport, je le fais. J'aide mes élèves, je leur fais de la préparation mentale sans qu'ils s'en rendent compte. Je les conditionne, je glisse des punchlines discrètes.
Allez-y. Par exemple, avant une compétition, qu'est-ce que vous glissez comme punchline ?
Alors en fait, ça va pas être avant la compétition. Ce que j'aime, le moment où j'aime leur passer des messages, c'est souvent en fin d'entraînement, quand ils sont fatigués et ils sont en train de faire les combats, ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils ont les muscles qui tétanisent, ils sont à bout de souffle, ils en peuvent plus, ils ont envie d'abandonner, et je leur dis: les gars, c'est là que ça commence, c'est là que c'est marrant, c'est là. Avant, tout le monde pouvait faire ce que vous avez fait. Avant, quand on est en forme, c'est facile pour tout le monde. C'est là, maintenant, qu'on va voir qui est le champion ou pas. Donc, et je leur dis: attendez dans la compète le moment où vous avez mal, où vous allez souffrir, et dites-vous que c'est là que vous allez briller. Et c'est ça que j'essaie de leur mettre en tête. Et les préparer aussi, par exemple, parce que des fois, on combat, on a les muscles qui tétanisent, on n'arrive même plus à saisir, on n'arrive même plus à respirer. Et limite, je leur dis: attendez ce moment-là, accueillez-le, embrassez-le quand il arrive, soyez content quand il arrive, et exprimez-vous à ce moment-là. Et tout se rejoint. Mohamed Ali, quand on lui demandait combien d'abdos il faisait, il disait: je sais pas, je compte pas, je commence à compter que quand ça fait mal. Avant, ça compte pas. Et donc, c'est ouais. Et du coup, les mecs, ils sont prêts, là. Parce que 90% des compétiteurs, quels qu'ils soient, quand ils veulent retarder le moment où ça fait mal, où ça pique, non, je veux pas y aller, je veux pas. Et quand ils y sont, ils sont dans la dureté. Donc moi, je les prépare à accueillir la dureté. Quand ça arrive, embrassez-la et voilà, kiffez à ce moment-là.
D'ailleurs, les coureurs, ceux qui courent sur des longues distances, ils attendent ce deuxième souffle.
Voilà. Le deuxième souffle, je pense, c'est différent. Le deuxième souffle, par exemple, le deuxième souffle, je pense, c'est un truc plus physique. C'est-à-dire, effectivement...
C'est le corps, c'est pas la tête, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est le corps. Le deuxième souffle, il vient, c'est le corps. C'est-à-dire, moi, par exemple, avant une compétition, j'attends pas mon premier souffle sur mon combat, je le fais passer à l'échauffement. Sur mon échauffement, je fais passer mon deuxième souffle. Comme ça, c'est bon.
Comme ça, c'est fait.
Ouais. Et après, je calcule avec mon temps de passage pour que je récupère, je revienne à 100%. Mais voilà, au moins, je sais que je me ferai plus avoir par mon premier souffle, en fait. Et ensuite, après, c'est la tête. Après, on y va. Et je sais qu'à un moment, ça va piquer. Et je sais que c'est là que je vais briller.
Bon, il y a une punchline. On parlait de ça. Peut-être que c'est ce qu'a appliqué Michael Phelps. C'est tant que tu es dans la partie, tu as une chance de la gagner. Si tu abandonnes, tu meurs.
C'est ça, c'est ça.
Jamais abandonné.
Jamais abandonné. Alors peut-être, je pense que Michael Phelps m'a indirectement influé sur ma dernière compétition, c'est les championnats de France au mois de juin 2019, donc là, les derniers. Et vous savez, en début de saison, je me dis, voilà, cette année, je veux une médaille d'or. Voilà. Quelle que soit la compète, il m'en faut une. Et donc, j'ai performé dans l'année, j'ai eu une médaille de bronze, une médaille d'argent. Bon, voilà. Il y avait les championnats de France en fin de saison, et je me dis, voilà, c'est la dernière de l'année. Là, t'as plus le choix. Et donc, moi, en jiu-jitsu, on peut combattre en kimono, d'accord ? Et sans kimono, c'est-à-dire en short et en t-shirt, on appelle ça jiu-jitsu sans kimono, du grappling. Donc, je combats donc dans ma KT Rennes ou en kimono, où je me sens fort, et donc je vais jusqu'en finale, et du coup, je perds en finale. Donc, j'étais frustré. Et on a la possibilité, lorsqu'on fait un podium, de combattre en absolu, c'est-à-dire avec les lourds, les légers.
C'est ce qu'il faut raconter, ouais.
Donc, je me dis, vas-y, let's go. Je vais combattre avec les lourds dans l'absolute. J'arrive à misser jusqu'en finale et je repère en finale. Et là, je me dis, c'est pas possible et tout. Et puis en plus, le grappling, c'est pas c'est le lendemain. Combattre en grappling, c'est pas là où je suis fort. Je me suis quasiment pas entraîné de l'année en grappling. Donc je voulais pas revenir le lendemain. Mais après, je me dis, mais quand même, t'avais dit que t'allais gagner une médaille d'or. Vas-y, essaye, on sait jamais. Donc là, je me motive. Le lendemain, j'y retourne, courbaturé et tout. Parce que faire une journée de combat, à la fin de la journée, on a pas mal, mais le lendemain matin, quand on se réveille, notre corps, il répond difficilement. Donc, j'y retourne le lendemain matin. Je me requalifie en finale. Et d'ailleurs, on avait été diffusé à la télé ce jour-là. Enfin, je me dis, c'est ma chance, quoi. Je repère en finale. Et puis, en plus, il y avait mes élèves. J'avais des petits, mes élèves, les enfants, les championnats de France enfants étaient là ce jour-là. Donc, ils me regardaient. Ils voient leur coach perdre. Il y avait mes élèves adultes qui combattaient aussi. Ils voyaient que j'étais pas bien. Et puis moi, la crédibilité, il y a tout ça qui rentre en compte, quoi. Et puis je me dis, vas-y, j'ai quand même 3 médailles d'argent, c'est bon, c'est 3 fois vice-champion de France, je peux rentrer à la maison, tu vois. Après, je me dis, purée Samir, tu t'es dit quand même une médaille d'or, et puis tant que t'es dans la partie, t'as une chance de la gagner, mec. C'est pas fini. Et je me lève et mes élèves me font « Mais Samir, tu vas où ?» Je fais « Non, je vais faire l'absolute, c'est-à-dire je vais faire la toute quasi. » Ils me font « Non, t'es sérieux ?» Ils avaient peur que je perde, en fait. Je dis « Non, j'y vais. Tant que je suis dans la partie, je change d'aller. » Et puis j'y vais, je marche comme ça, un peu en mode un peu robot. Et j'y vais et je fais mon combat. Et purée, à 30 secondes de la fin du combat, je m'aperçois que je suis en train de gagner, je mène au score, quoi. Je me dis « Oh, c'est bon, ça va le faire. » Et puis finalement, je gagne et tout le monde... était content, surtout mes élèves. Et puis là, j'ai montré à mes élèves surtout que tant qu'on est dans la partie, on a une chance de la gagner, on n'abandonne pas.
Voilà, et Samir Benseni, notre invité aujourd'hui, Jiu-Jitsu, La Force Tranquille, le livre qui vous aide à devenir meilleur, en vente sur Amazon. Si vous voulez intervenir et poser vos questions à Saïd, vous pouvez appeler à Samir, appeler le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Comment avoir un mindset de champion aujourd'hui ? Mon invité s'appelle Samir Bensaïd, 5 fois champion de France de Jiu-Jitsu brésilien. Vous publiez votre premier livre qui s'appelle La Force Tranquille, Jiu-Jitsu, le livre qui vous aide à devenir meilleur. On le trouve où, votre livre ?
Alors, le livre, on le trouve sur Amazon, exclusivement sur Amazon, en format papier, broché, puis en format Kindle pour... la nouvelle génération qui lit
sur tablette.
Sur tablette.
Tu valides pour tous ceux qui veulent s'intéresser et qui voudraient s'initier au développement personnel. C'est vraiment parfait. Allez, une autre punchline. Les gagnants se fixent sur la victoire, les perdants sur le gagnant.
Ouais, c'est ça. J'avais pas prévu de parler beaucoup de lui, mais Michael Phelps, encore une fois.
Voilà. Mais elle est en anglais dans votre livre.
Oui, je l'avais mise en anglais et puis j'avais mis entre parenthèses, si tu comprends pas, va chercher sur Google.
Comme j'avais pas compris, je suis allé chercher sur Google.
Et du coup, il y avait une photo qui était vraiment parlante le photographe, il a pris la photo, elle est magnifique. On voit Michael Phelps en train de, en plein effort, en nageant. Il est premier. Il y a le deuxième juste derrière lui. Certains ont déjà vu cette image-là. Il est en train de regarder Michael Phelps. Il est en train de le regarder. On voit que le second, il regarde. Et cette situation-là, les gagnants se concentrent sur la victoire et les perdants sur les gagnants. C'est ça. Le gagnant, il s'en fout. Il fait son truc. Comme dirais Steve, t'as accompli ta légende personnelle, t'avances et tu, voilà, ce qui se passe autour, tu t'en fous en fait, tu avances et tu fais ton truc.
Tu regardes pas dans le rétro, c'est devant que ça se passe.
Ouais.
Mounir est à Toulon, au 01 53 48 3000. Mounir, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Merci, bonjour, bonjour Samir.
Bonjour Mounir.
Alors je voulais intervenir plutôt poser une question à Samir en direct sur Beurre FM. Je tenais tout d'abord déjà à te féliciter sur ton parcours et ce livre que j'attends avec impatience, que j'ai commandé sur Amazon.
Merci.
Je pense le recevoir pour Noël, donc ça sera un super cadeau. Tout d'abord, j'ai 40 ans, je crois qu'on est de la même génération, Samir. Et ma question est, j'ai également commencé le jiu-jitsu en 2007 avec Akio à Paris. Et jusqu'à maintenant, le problème, c'est que je me suis énormément blessé. Alors, quelles sont tes recommandations à ce sujet ?
Alors, ça, c'est particulier un peu à toutes les disciplines. Après, pour ce qui est des blessures, en fait, il faut écouter son corps, vraiment, et prendre quand même du temps pour s'échauffer avant l'entraînement. Donc, faire tout ce qui est des choses basiques, échauffement articulaire, mais surtout dans la durée, écouter son corps. Et surtout, le problème, tu as dit que tu as débuté en 2007, donc tu as quand même pas mal d'expérience. Mais en général, le problème des débutants, lorsqu'ils débutent la discipline, c'est qu'ils commencent, ils veulent combattre fort tout de suite, c'est dur, il y a beaucoup de force. Alors que le jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu, ça veut dire l'art souple. Hein. On est, et c'est vraiment... un des concepts des arts martiaux, et particulièrement au jiu-jitsu, on va éviter d'être dans la résistance, on va être dans l'acceptation, on va rediriger à chaque fois. Donc en fait, il faut essayer, alors je sais pas comment est ta pratique, mais voilà, combattre avec beaucoup de relâchement, une fois que tu sais que tu es bien chaud, bien échauffé, que toutes tes articulations sont échauffées, voilà, essayer de tourner vraiment souple, et, si tu sais qu'il y a des gens qui vont être trop brusques, voilà, à la limite, choisis tes partenaires si tu en as l'occasion. Et surtout, c'est écouter son corps. Voilà, moi, des fois, quand je suis blessé, j'ai mal au cervical ou ce genre de choses, ça peut arriver. Bah, j'hésite pas à prendre 2 jours de repos, me reposer. Voilà. Écouter son corps.
Eh ben, c'est une note que je prends en considération. Et surtout, j'ai hâte de lire ton livre, parce que je t'ai écouté là sur Beurre FM et ça donne encore plus envie de le lire.
Eh ben, merci Mounir.
Merci Mounir.
Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci à la radio.
À bientôt Mounir.
À bientôt,
merci de votre appel. Des grands champions gagnent des compétitions mais ne gagnent pas dans la vie. À quel moment vous avez compris que vous vouliez et pouviez vivre de votre passion ?
Alors, j'en ai pas beaucoup parlé dans le livre, mais c'est un pari un peu fou que j'ai tenté. En 2013, j'étais chauffeur poids lourd et je décide de signer une rupture conventionnelle avec mon patron pour vivre du jiu-jitsu brésilien. Et quand j'ai dit ça à mon patron, il m'a dit, mais c'est quoi ce sport? Tu quittes un CDI, bon voilà, c'était correct. Enfin, j'avais trouvé le travail qui me convenait, j'avais pas de pression, voilà, un salaire correct. J'arrivais à rentrer chez moi suffisamment tôt. Mais j'étais plus aligné, ça faisait 5 ans que je faisais ça. J'avais des collègues qui avaient 60 ans, qui conduisent encore le camion. Et c'est pas question d'âge ou quoi, mais je me disais... Dans 20 ans, 30 ans, j'ai pas envie de faire ça. Je me vois
mais
pas encore.
Au moment où vous prenez cette décision, vous êtes père de famille, vous avez 4 enfants,
ouais.
Des responsabilités. Je sais pas comment votre épouse a réagi. Au moment où vous lui dites, bon, bah, écoute, tu vois, je crois que le CDI, je suis plus aligné, c'est plus ça qui va payer les factures. Comment elle a réagi?
Ah, bah là, c'était un peu. J'ai pas envie de dire compliqué, mais.
À lui faire partager ça,
ouais,
parce que c'était votre passion à vous, mais ouais, pas la sienne.
Ouais, et puis après tu perds de, enfin j'ai perdu la moitié de mon salaire d'un mois à l'autre quoi. Donc après en fait moi je me voyais plus continuer, c'était soit ça soit je mourrais quoi en fait. Donc par exemple mon patron l'année d'avant je lui avais dit que j'arrêtais, il m'a augmenté mon salaire.
Pour vous garder.
Donc j'ai accepté, je fais ok c'est bon. Et là, quand je lui ai dit j'arrête, il m'a dit bon, combien? Je lui ai dit ouais, mais là, même si tu rajoutes un zéro, c'est plus une question de prix, c'est une question d'alignement.
C'est le prix donc, de la liberté, en fait.
C'est le prix de la liberté, exactement. Ouais. Et donc, en 2013, j'ai à peine Ça fait à peine 5 ans que je fais de la compétition. Je viens d'avoir ma ceinture noire. J'ai commencé à monter mon club. Et puis après, bah voilà, c'était des années vraiment de galère. Et parce que c'est pas une discipline connue. Mais voilà, c'était. Je voulais juste être aligné avec moi-même. Et le fruit de ce travail-là, de ce sacrifice-là, ça commence seulement à payer maintenant, en fait. C'est voilà, depuis un an, deux ans. Et cette année avec la sortie du livre que ça paye, mais voilà, y a la théorie vivre de ses rêves, vivre de sa passion, mais après le vivre au quotidien, c'est vraiment voilà.
Ce qu'on dit pas aux gens, c'est que voilà, le quotidien ça vient tous les jours, il faut s'accrocher quoi.
Ah c'est, ouais,
il faut y croire. Hein,
faut y croire. Moi plusieurs fois, je suis allé au distributeur, ma carte a passé pas, j'ai galéré pour mettre du gasoil, enfin des trucs tout bêtes où j'ai passé plusieurs années ric-rac, mais voilà, je croyais en mon truc. Je me suis dit, enfin, je me vois pas faire autrement. Et puis voilà.
Mais il y a quand même ce grand mouvement aujourd'hui dans la vie où on entend de plus en plus de gens qui disent voilà, je voudrais vivre de ma passion. Je veux plus travailler. Je veux plus dépendre d'un patron. Il y a quand même tout un mouvement, mais on dit pas aux gens que
c'est
pas au quotidien. Vous dites, il faut bâillonner la voie de la loose. Hein.
Oui, parce que la voix de la loose, franchement, Philippe, ça fait plaisir, ça se voit que vous avez lu le livre.
Bah, vous m'avez obligé. vous m'avez mis la pression, donc j'ai...
Sinon, c'était prise de JJB.
Ouais, c'est ça.
Et la voix de la loose, ce que j'ai dans le livre, c'est la voix qui va te dire non, mais vas-y, reste chez ton patron, t'as la sécurité, va pas en compétition, tu vas perdre, reste au chaud, tente pas ton entreprise, va pas voir telle personne pour lui parler, etc. Et donc, on a toujours cette deuxième voix, cette petite voix qui vient nous torturer, et c'est la voix qui tue les rêves, en fait. Mais c'est vrai que ça demande de la détermination et d'y croire. Mais moi, c'était sûr, je n'étais plus aligné avec le fait de dépendre de quelqu'un, d'avoir mes horaires fixés, de me dire de quémander pour des congés, de, si j'avais un enfant malade, supplier pour aller pour prendre une journée, pour l'emmener à l'hôpital ou quoi. C'est... Enfin voilà, je me dis que la vie, on doit vivre la vie on doit être libre dans la vie qu'on mène, quoi, tout simplement, et ne pas dépendre. Et du coup, si on a un talent, une passion et qu'on peut essayer d'en vivre, bah faut tenter le coup. Et puis voilà, c'est pas la mort, quoi. Se serrer les dents, être un petit peu juste financièrement pour quelques temps, ça a jamais tué personne. Ça forme, c'est voilà.
Ouais, là où je vous posais la question, c'est pour vous, oui, mais il y a aussi votre famille derrière. C'est que, en fait, cette chose-là, il a fallu la partager avec eux.
Voilà, c'est vrai, pendant longtemps, on n'est pas parti en vacances. Ouais, bah, voilà. Mais voilà, j'ai impliqué tout le monde. Mes enfants, ils font du jiu-jitsu. Ils étaient contents de me voir. De voir ma notoriété dans ma discipline. Ils étaient fiers. Ah, c'est mon papa, il a la chaîne YouTube, il est ceci, il a cela.
D'ailleurs, votre fille fait partie de la promotion, de la campagne de promotion de votre livre.
Oui, alors, vous avez regardé sur YouTube. C'était pas prévu. Je voulais faire une petite vidéo pour faire la promo de mon livre. Et ma petite fille Asma me dit, ah, mais papa, je peux la faire avec toi. Alors, je lui dis.
Génial. C'est un beau moment, je peux vous dire.
Au début. Pour vous dire la vérité, je lui dis bon bah écoute, on va faire un petit test. Je voulais juste filmer avec elle pour comme lui donner une friandise et qu'elle retourne jouer quoi. Et puis quand on l'a fait, je fais purée, mais elle assure. Et du coup j'ai gardé le.
C'est magique ce moment.
J'ai gardé le montage et puis voilà.
C'est sur votre chaîne YouTube. Au JGB, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Alors qui c'est qui gagne? Si c'est pas le plus fort qui gagne. C'est le plus malin, c'est le plus quoi?
C'est un équilibre entre tout. C'est un équilibre entre la force, la technique, la stratégie. En fait, voilà. Si tu es très bon en force, mais que tu n'as pas de stratégie, il faut trouver un équilibre. C'est comme dans la vie. Dans la vie, il faut trouver un équilibre dans sa famille, dans son travail. Si tu es trop dans ton travail, tu vas négliger ta famille. Si tu es trop dans ta famille, enfin, voilà. Et donc, dans le JJB, c'est pareil. Moi, ce qui a fait ma force en compétition, ce qui le fait toujours, c'est que je suis le meilleur nulle part. Je suis pas le meilleur en technique, je suis pas le meilleur en force, je suis pas le meilleur en cardio, mais j'essaye d'avoir une moyenne plus dans tout et avoir une stratégie au top. Voilà, j'essaye d'être moyen plus et ma stratégie au top. Et c'est-à-dire, et dans ma stratégie, je vais ramener mes adversaires là où je suis bon. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas toujours le meilleur qui gagne.
Samir Ben Saïd, bon, votre histoire est inspirante. Vous êtes vous-même inspirant. J'imagine que ceux qui vous ont écouté, qui vont vous réécouter sur la chaîne YouTube de Beurre FM vont le trouver. Vous avez un objectif, c'est 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. J'espère qu'on va y contribuer.
Ah, c'est sûr, avec Beurre FM, là, c'est bon. Je m'étais dit, avant le 31 décembre, on va faire les 10 000. On est bientôt à 9 000. Je pense que grâce à vous, voilà, on va.
J'espère qu'on va vraiment, vraiment contribuer à ça. Comment s'appelle votre chaîne?
Samir Ben Saïd, tout simplement.
Et votre livre s'appelle La Force Tranquille, Jiu-Jitsu, le livre qui vous aide à devenir meilleur. C'est un plaisir de vous rencontrer, vous ressemblez à votre livre.
Bah, merci Philippe, c'est un honneur de partager cette émission avec vous et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés.
Et demain, elle nous inspire beaucoup, elle est très inspirante. Hein. C'est Karima Shadibaou qui sera avec nous. Nous parlerons des mères imparfaites. À demain.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.